Quatrième et dernier temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des relations mère-fille. Ce matin, une question simple qui nécessitera des réponses complexes. Le matriarcat a-t-il existé ? Après avoir évoqué l'histoire de l'usage du rose pour les filles et du bleu pour les garçons, c'était lundi. La transmission entre une mère et une fille, toutes deux historiennes, c'était mardi dans le documentaire signé Séverine Yatar et Véronique Samouilov. Puis hier, avoir débattu de l'éducation des filles au 18e et 19e siècle, nous allons nous demander si, comme on l'a dit souvent, le matriarcat a existé dans l'histoire. Nous le ferons avec Séverine Yatar, qui a préparé cette émission avec nous, et avec nos trois invités, Anne Guillou, qui est professeure émérite de sociologie, auteure de Pour en finir avec le matriarcat breton chez Skolvreis, avec Claudine Cohen qui est directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Elle est auteure entre autres de La femme des origines, image de la femme dans la préhistoire occidentale chez Belin et chez Herscher, c'était il y a quelques années, de Origine de l'humanité avec d'autres historiens et préhistoriens, Les nouveaux scénarios qui vient tout juste de sortir aujourd'hui aux éditions de La Ville Brûle, et elle publiera bientôt Femme de la préhistoire chez Belin. Philippe Bourgeot est également avec nous depuis les studios de la radio suisse qu'il accueille. Il est professeur émérite à l'université de Genève. Il a coordonné chez Drose la mythologie du matriarcat, l'atelier de Johann Jakob Bachofen qui fait le point sur les travaux de cet historien du 19e siècle, historien suisse considéré généralement comme le père de la notion de matriarcat. Bonjour Séverine Yatar, bonjour Claudine Cohen, merci d'être avec nous. Bonjour à vous au téléphone Anne Guillou.
Bonjour.
Et bonjour à vous Philippe Bourgeot. Je vais peut-être commencer par vous, parce que vous avez travaillé avec d'autres, avec Nicole Duriche, Ange Gold et puis avec Grégoire Sommer, pour un travail collectif chez Drose sur cette mythologie du matriarcat. Alors quand nous avons réfléchi à cette émission il y a quelque temps avec Séverine Yatar, nous nous sommes demandé tout simplement si la question que nous nous posions lorsque nous étions étudiants, y a-t-il eu des régimes anthropologiques ou historiques matriarcaux, eh bien si cette question était encore valide, et nous avons découvert vos travaux qui font écho aux travaux d'un personnage très intéressant, une sorte de post-romantique du 19e siècle, Johann Jakob Bachofen, dont on dit généralement qu'il n'a peut-être pas inventé le mot matriarcat, mais qu'il a inventé la notion, en l'occurrence, de matriarcat. Qui est-il et pourquoi faut-il commencer cette histoire par lui ?
Eh bien, écoutez, c'est bien juste ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de matriarcat, lui, mais de Mutterrecht, de droit de la mère. En fait, c'est un juriste. C'est un juriste, un historien du droit, un antiquisant, qui avait fait des études absolument poussées dans l'Allemagne, encore romantique au fond, hein, dans sa jeunesse. Il avait été l'élève de Karl Ottfried Müller, notamment, qui est un personnage très important, dans l'étude des mythologies. Donc c'est une sorte de mythologue. Il était intéressé par les discours idéologiques, en fait, qui prennent la forme des grands mythes fondateurs de la nation grecque, en l'occurrence. Et c'est à cette occasion-là qu'il a rencontré cette idée. C'est-à-dire qu'il a été baigné dans une atmosphère qui annonçait la chose. Il avait travaillé notamment à travers Karl Ottfried Müller sur les Euménides et sur les Erinnies, c'est-à-dire ces figures grecques qui veulent venger le sang versé, et notamment le sang de la mère. Et ça se traduit à Athènes par cette tragédie d'Eschyle, où Karl Ottfried et bien a fortiori Johann Jakob Bachofen voient l'expression d'une victoire du droit paternel sur le droit de la mère. C'est-à-dire qu'on veut punir le fils d'avoir vengé son père, mais il faut pour cela soumettre en quelque sorte des figures dangereuses, enfin qui sont ces Erinnies, ces puissances qui vengent le sang versé de la mère, et il faut donc passer à travers la mère, si j'ose dire, pour établir le droit du fils et du père. Et il y a cette idée-là fondamentale chez lui, et Et puis à partir de là, peu à peu, se dessine son grand système, en fait. Son grand système qui consiste à écrire une histoire de l'humanité primitive, mm-hmm. en fait, qui commence par une sorte de marécage à la fois incestueux, où tout se mêle, où on ne discerne pas la paternité de la maternité. Mm-hmm. Enfin, c'est le stade premier, quoi, qui est horrible, quoi, qui est une sorte de sauvagerie absolue. Et peu à peu, un premier droit émerge, qui est celui de la mère, précisément. C'est ce qu'il a cru comprendre.
Hein. Mais Philippe Bourgeois, alors peut-être dire, il travaille à partir de quoi, Barhoeffen, justement, c'est une des critiques, hein, qui sera faite à son travail, qui est énorme, hein, je crois que c'est 1300
c'est
pages,
c'est
somme.
Oui, c'est géant.
Et il va travailler notamment à partir des mythes.
Il travaille sur la mythologie grecque, essentiellement.
Et il va prendre ses documents comme des documents historiques.
Oui, mais il a quand même écoutez, c'est un peu un illuminé, on est d'accord. mais en même temps, il a une méthode. Et sa méthode consiste à dire que ce qui est historique dans les mythes, c'est pas l'histoire événementielle d'abord, mais c'est plutôt la pensée qu'une société donnée, une société primitive en l'occurrence, qu'on retrouve à l'état de vestiges dans les mythes, mm-hmm. la manière dont cette société très lointaine dans le temps a pensé son rapport au monde et son rapport et les rapports entre les sexes. Donc c'est plutôt une histoire de la pensée qu'une histoire événementielle.
Alors oui. continuez.
Non, je vous en prie.
Et il faut dire aussi, Claudine Cohen, qu'avant ce personnage très intéressant sur lequel ont travaillé tous ces chercheurs avec Philippe Bourgeois, qui s'appelle Johann Jakob Barhoeffen, il y avait donc d'autres personnages qui peuvent compter aussi dans cette généalogie de l'idée de matriarcat, et en particulier un fameux jésuite du début du XVIIIe siècle.
Ah, c'est au père Lafitau.
Oui, le père Lafitau.
Qui avait écrit un livre qui s'appelait « Mœurs des sauvages américains » et qui, incidemment, parle de cette gynécocratie qu'on rencontre chez les Hurons, les Iroquois, hein, des peuples donc américains autochtones, et chez lesquels il reconnaît une domination féminine, ou en tout cas une place importante accordée aux femmes. Et donc, bon, il en parle incidemment, il n'en fait pas une théorie, mais enfin, c'est une référence qui a pu circuler. Alors, je ne sais pas si Barhoeffen la cite explicitement, mais en tout cas, elle a été reprise par des historiens qu'il a pu lire. Et donc, il y a une possibilité de circulation de cette référence, qui continue d'ailleurs aujourd'hui à être reprise. Les Iroquois et leur...
Oui. Et Morgan aussi. Oui.
Il dit, en l'occurrence, ce jésuite, Lafitau, c'est dans les femmes que consiste proprement la nation, la noblesse du sang,
oui,
en propos
absolument.
Des Iroquois et des Hurons,
absolument,
l'arbre
oui,
généalogique, oui. L'ordre des générations et la conservation des familles. C'est en elles que réside l'autorité réelle. Le pays, les champs et toutes leurs récoltes leur appartiennent. Elles sont l'âme des conseils, les arbitres de la paix et de la guerre. C'est à elles qu'on donne les esclaves. Elles font les mariages, les enfants sont de leur domaine et c'est dans leur sang qu'est fondé l'ordre de la succession. Les hommes, au contraire, sont entièrement isolés et bornés à eux-mêmes. Leurs enfants leur sont étrangers. Avec eux, tout périt. Une femme seule relève la cabane. C'est ce qu'écrit donc ce jésuite Lafitau en 1724 dans les mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps. Et effectivement, il bâtit déjà dans cette description des Hurons en particulier et des Iroquois, il bâtit déjà cette idée qu'il y aurait des régimes gynécocratiques, en l'occurrence Philippe Bourgeois, idée qui va se perpétuer et se développer en particulier au 19e siècle avec ce personnage de Barhoeffen.
Oui, alors cette idée de gynécocratie, elle commence d'ailleurs dans le monde grec, que n'ignore pas Barhoeffen évidemment, mais encore moins Lafitau, qui est nourri des Grecs aussi. Elle commence chez des penseurs comme Aristote, qui réfléchissent sur la possibilité que les Spartiates auraient de connaître une gynécocratie. C'est-à-dire que c'est une sorte de fantasme grec absolument prodigieux, dans le fond. C'est-à-dire que les jeunes Spartiates sont sur la frontière. Hein. Ils sont séparés des femmes, comme vous savez. Ils vivent une vie de guerriers, en quelque sorte. Mais ça veut dire qu'ils rejoignent leurs femmes périodiquement dans des circonstances très ritualisées. Mais ça veut dire, ça implique que les femmes entre elles pourraient comploter d'une certaine manière.
Et
qu'un jour, quand ils
gouvernaient.
Voilà. Alors il y a cette idée de la gynécocratie qui est dans l'air en Grèce à ce moment-là, hein, comme une menace. Et on l'aurait déjà rencontré d'ailleurs, même avant que les philosophes du politique s'en emparent, on l'aurait rencontré déjà dans la comédie avec Aristophane, Lysistrata. Il y a cette crainte énorme d'un pouvoir féminin.
Cette crainte fait qu'il y a une moquerie à travers justement ces textes d'Aristophane.
Oui.
Philippe Borgeot.
Bien sûr qu'il y a une moquerie. C'est bien entendu. Mais il y a une moquerie adressée au système patriarcal aussi. C'est-à-dire que c'est double. C'est assez extraordinaire parce que, au fond, chez Aristophane, on est dans une situation où on en a assez de la guerre. Et on aimerait bien que les Spartiates et les Athéniens, en l'occurrence, cessent de se taper dessus. Et là, c'est là qu'on imagine de manière comique, effectivement, que les femmes prennent le pouvoir. Ouais.
Mais tout de même, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces écrivains, ces penseurs, ces géographes, ces historiens de l'époque antique, de la Grèce antique, vont rapporter des exemples supposés de ces gynécocraties aux marges de la Grèce antique, c'est-à-dire toujours dans des endroits lointains et dans des endroits qui, d'une certaine façon, renversent l'ordre établi, comme dans une sorte de carnaval, les Amazones, les Lyciens, les Lemniennes qui sont toujours Lyciens. Aux marges du les Lyciens qui sont aux marges du monde civilisé des Grecs et qui auraient donné le pouvoir aux femmes d'une certaine façon, en tout cas c'est comme ça que c'est décrit, et au bout du compte des gens comme Bachofen, en l'occurrence Philippe Borgeot, prennent assez au sérieux ces idées-là pour se dire, eh bien, il y a là peut-être matière à histoire et peut-être l'existence d'un stade antérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui, ce stade matriarcal qui aurait été débouté par un stade patriarcal qui s'est installé ensuite, la vengeance des hommes sur ces femmes qui auraient gouverné en premier les cultures et les civilisations méditerranéennes, Philippe Borgeot.
Oui, absolument. C'est-à-dire que pour Bachofen, le droit de la mer, c'est la première forme de civilisation, en quelque sorte. Hein. Mais ça débouche, alors il ne dit pas exactement quand, hein, mais enfin ça débouche au bout d'un certain temps, ça débouche sur des excès. Et c'est ces excès-là qui vont déterminer l'arrivée du patriarcat, l'arrivée heureuse pour Bachofen du patriarcat. C'est-à-dire que le pouvoir féminin va se fatiguer dans le sens qu'il va devenir monstrueux. Il va prendre des formes comme l'amazonisme, notamment, ou des formes proches de l'amazonisme, comme ce qui se passe avec les Lemniennes qui assassinent tous leurs hommes sur l'île de Lemnos. Et c'est contre ces réactions excessives qu'une saine révolution va s'établir pour établir le droit du fils d'abord, hein, du fils qu'on va reconnaître comme le fils de son père et non pas de sa mère.
Févrignata. Donc là, c'est tout.
Oui. Non, juste parce que finalement, là, on parle de droit maternel, on parle de gynécocratie, on va arriver à parler de matriarcat. Est-ce qu'on pourrait définir qu'est-ce que le matriarcat? Et notamment, distinguer aussi, ce qu'ont fait évidemment les anthropologues, le matriarcat des sociétés matrilocales et des sociétés matrilinéaires. Peut-être Claudine Cohen, juste pour faire un petit peu le point, qu'est-ce que ça signifie, en fait, le pouvoir des femmes, le pouvoir du genre féminin?
Bachofen parlait du droit des femmes. Et le matriarcat, c'est l'idée que les femmes ont un pouvoir dans la société.
À la fois social, avec la transmission de la filiation, avec un pouvoir économique, un pouvoir politique.
Oui, un pouvoir général. Hein. En général, chaque auteur définit cela différemment, mais en tout cas, l'idée du pouvoir des femmes, l'idée que les femmes dominent dans la société. Alors, parler de matrilinéarité, c'est un peu plus technique. Hein. Ça veut dire que les choses se perpétuent de mère en fille, hein, si tu veux parler des relations entre les mères et les filles, plutôt que de père en fils, donc les héritages, etc. Et parler de matrilocalité, ça veut dire que dans les formes du mariage, c'est chez la femme que le mari va, au moment où il l'épouse, Et non pas la femme qui va dans la famille du mari.
Ce qui est assez extraordinaire avec cette notion inventée donc au XIXe siècle et développée au XIXe siècle, même si ça n'est pas Barofen qui invente le terme même de matriarcat quand il écrit son droit maternel en 1861, Claudine Cohen, c'est tout de même que ça a du succès. Ah. C'est-à-dire que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, cette rêverie, comme l'a décrit tout à l'heure Philippe Borgeau, cette rêverie d'un poste romantique nourri de romantisme allemand, juriste suisse et spécialiste de l'Antiquité au milieu du 19e siècle, cette rêverie va devenir une sorte de pont aux ânes de tous ceux qui s'intéressent à l'Antiquité, à l'histoire de l'humanité.
Et à l'évolution des sociétés.
Et à l'évolution des sociétés.
Alors, effectivement, mais je crois, peut-être Philippe Borgeau confirmera cela, que le pauvre Barofen n'a pas connu ce succès lui-même. Et il a été beaucoup critiqué, ridiculisé.
Par Karl Marx.
Oui, et puis par ses contemporains. C'était un rêveur, c'était quelqu'un qui lisait des mythes comme de l'histoire, etc. Et donc, je pense que ce succès a été postérieur à sa publication. Et alors, il s'est fait d'une façon assez intéressante, comme une lecture héritée de Darwin, de l'évolution. Et j'en parlais tout à l'heure d'évolution des sociétés. Et des anthropologues, qui allaient un peu sur le terrain, mais qui étaient beaucoup aussi des anthropologues en fauteuil, comme on dit, armchair anthropologists.
Oui, il faut dire qu'on est, on assiste à ce moment-là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, à la naissance de la préhistoire comme discipline, à la naissance de l'anthropologie comme discipline, etc. Et que tout cela se fond un peu, qu'il n'y a pas vraiment de spécialité fermée, que l'on est une sorte d'érudit et qu'on va picorer un peu chez les uns et chez les autres. Et donc, il y a cette évolutionnisme culturel qui se met en place.
Oui, alors c'est surtout dans les pays anglo-saxons. Oui. En France, on est moins... Ça vient plus tard en France. C'est plutôt au début du XXe siècle que l'héritage se perpétue. Mais là, on a vraiment des gens qui sont proches de Darwin, Lubbock, et puis ensuite Taylor, et puis ensuite MacLennan, enfin des gens qu'on connaît moins aujourd'hui ici, mais qui ont été très importants, et qui se mettent à raconter l'histoire de l'évolution des sociétés, comme on racontait l'histoire de l'évolution des animaux, un devenir, qu'on lisait d'ailleurs contrairement à ce que voulait Darwin, mais bon, c'était une lecture de Darwin à l'époque.
Avec une idée de progrès.
Comme un progrès linéaire. Alors, on parlait tout à l'heure de devenir chez Barofen. C'est vrai qu'il y a des excès qui produisent un renversement de situation. Et je pense, je ne sais pas si Philippe Borgeau confirmera cela, que c'est une lecture hegelienne de l'histoire. C'est un devenir qui se fait par contradiction et par dépassement des contradictions et par dépassement nécessaire de ces contradictions.
Philippe Borgeau ?
Oui, absolument. Il y a un dépassement nécessaire avec, alors, pour Barofen lui-même, une crainte de possible régression. C'est toujours possible de régresser. Et il y a une correspondance politique aussi de Barofen qui est un peu moins connue. Il avait un ami dans la diplomatie. Il s'occupait déjà de la montée de la Russie dans l'univers du pouvoir mondial, quoi. Et il voyait cette émergence de la Russie comme une possible régression matriarcale. Et ce qui lui fait horriblement peur. Voilà. Donc il était horrifié en fait par cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'il y avait bien
parce que c'était bien un conservateur. C'était bien un conservateur, Barofen, politiquement.
Alors il n'y a pas plus conservateur. Non, c'est pas possible. Ni plus patriarcal que lui, ça c'est certain. Mais enfin. Oui,
Claudine.
Alors, donc, pour revenir à ces anthropologues, ce sont des gens qui ont essayé de tracer ce progrès des sociétés, depuis une origine assez sauvage, assez primitive, très primitive, jusqu'à l'homme blanc européen civilisé. Et donc, ils retraçaient des étapes de cette histoire. Et en fait, beaucoup d'entre eux ont mis à l'origine de cette longue évolution le matriarcat. Cet étaïrisme dont parlait Barofen, l'étaïr, c'est un joli mot pour dire une prostituée, donc ce premier stade un peu marécageux dont parlait Philippe Borgeau tout à l'heure, c'est un état où les hommes s'approprient toutes les femmes, et c'est un état complètement immoral.
C'est le désordre.
Voilà, c'est le désordre sexuel. Voilà. Et donc, et puis ensuite, le matriarcat qui suit, donc, comme un progrès.
Mode de transmission, justement, de mère en fille, comme vous le disiez tout à l'heure.
Oui, c'est le pouvoir des femmes.
Les femmes
qui s'approprient le pouvoir. Et puis ensuite, on a une évolution jusqu'aux formes de la famille. Et on s'intéresse énormément à l'histoire de la famille, hein, comme une histoire qui en quelque sorte est tracée et qui évoque cette histoire de la société entière.
Il y a la question de la religion aussi, je crois, qui est importante, puisqu'il y a cette idée des déesses mères.
Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans l'archéologie plutôt du XXe siècle qu'on va la trouver. Mais là, on est au XIXe encore, et on a donc chez ces anthropologues des théorisations plus ou moins élaborées. Et Philippe Bourgeois a prononcé rapidement tout à l'heure, j'ai entendu le nom de Morgan, hein, oui. Henry Lewis Morgan, qui est très important, hein, qui était un anthropologue américain, qui lui est allé en Amérique voir les Iroquois, etc.
Ah, voilà,
et ça, qui a retracé donc cette évolution. Alors il désignait trois stades, hein, la sauvagerie, la barbarie et la civilisation.
Ça s'appelait Primitive Society, c'est
Primitive,
ça son
livre. C'est un très grand livre.
En 1877.
Et vous savez que Lévi-Strauss, même s'il s'est beaucoup démarqué de cet évolutionnisme, et il a même construit toute sa pensée contre l'évolutionnisme culturel, a dédié les structures anthropologiques de la parenté à Lewis Morgan.
Ah oui. Voilà. Donc c'est important de dire que dans cette fin de 19e, il y a une sorte de bouillonnement autour de cette question matriarcale, un bouillonnement qui vient de cette pensée post-romantique de Bachofen, de ces pensées de ces premiers anthropologues évolutionnistes qui s'intéressent à ces questions-là, et même d'une vision politique de cette question-là, puisque si Karl Marx s'est moqué de ses idées de Bachofen et de ses idées d'évolutionnisme comme cela, il y en a un qui s'en moque pas, c'est Friedrich Engels.
Absolument.
Dans l'origine de la famille.
Est un lecteur de Morgan. Et il admire Morgan. Vraiment, Morgan est une plaque tournante de tout ça. Et en 1891, donc, Engels publie un livre aussi sur l'histoire de la famille, où il met cette histoire de la famille en rapport avec ce qui fonde le devenir pour les marxistes et pour Marx, même si Marx ne s'est pas intéressé à Bachofen, c'est le devenir de la production, des modes de production. Et donc, on met en rapport, et c'est ce que fait Engels dans son livre, les modes de production et les formes de la famille. Mmh. Et à l'origine de ces modes de production, il y a le matriarcat. Donc Engels a très fortement insisté sur cette base des sociétés humaines qui est à la fois donc matriarcale et qui est le mode le plus primitif de la production.
Parle-moi de ma mère. Parle-moi de...
Parle-moi de ma mère, évidemment, extrait du Carmen de Bizet dans cette émission de La Fabrique de l'Histoire, donc qui conclut notre série consacrée aux relations entre mères et filles et qui s'intéresse à cette notion développée, inventée et produite en masse à la fin du 19e siècle, cette notion du matriarcat comme stade primitif des sociétés humaines.
Alors,
Séverine Yatta.
Oui, alors, avant de rentrer de plein pied dans le 20e siècle et le 21e siècle. Alors, on a parlé de l'intérêt que porte Engel aux théories de Bachofen, à l'intérêt aussi porté par les anthropologues évolutionnistes. Mais alors, il y a aussi les féministes qui vont un petit peu s'approprier cette idée de Bachofen, la trouver en tous les cas assez intéressante, en voyant donc en l'utilisant comme quelque chose de militant, en fait, en se disant l'idée matriarcale peut être envisagée comme un idéal à reconquérir. Il a existé, pourquoi pas le faire réémerger.
Absolument. Et d'ailleurs, en France, en 1903, un groupe féministe a traduit Pas tout, évidemment, le texte de Barhoeffen qui fait 1300 pages, mais certaines parties, et à revendiquer cet héritage matriarcal comme quelque chose à prendre au sérieux et à retrouver à travers les luttes féministes. Mmh. Mais déjà au début du XXe siècle, il y avait déjà des courants féministes aux États-Unis, en Angleterre, en France, bien sûr. Et pourquoi pas le matriarcat comme idéal, au fond,
de société
féminine. Alors cette revendication a été reprise beaucoup dans le XXe siècle. On peut en parler à travers aussi l'archéologie préhistorique. Hein, on a repensé la préhistoire comme ce stade donc le plus ancien des sociétés où on a essayé de prouver que c'était un stade matriarcal à travers en particulier des découvertes de statuettes aux formes généreuses, etc.
Les fameuses Vénus.
Alors oui, alors il y a toute une lecture de ces Vénus paléolithiques et néolithiques. Hein, alors on essaye de mettre un peu tout dans le même sac, serait une preuve de l'existence de sociétés matriarcales au fondement même de l'histoire humaine.
C'est amusant de voir comment, en fait, une rêverie, puisque c'est comme ça qu'on l'a exposé, finit par s'incarner, en l'occurrence, dans des disciplines et des sciences qui naissent à cette fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Claudine Cohen.
Absolument. Et il faut voir, alors on parlait de Engels, c'est très intéressant, parce que évidemment Engels est un théoricien marxiste, mais alors après, il y a le régime soviétique qui va s'imposer en Russie. En Russie, le régime soviétique met beaucoup l'accent sur l'archéologie. Il faut trouver...
Et puis on fait du socialisme scientifique.
On fait du socialisme scientifique. Donc Lénine fonde un institut d'archéologie dès qu'il arrive au pouvoir. Et puis on va trouver des sites extraordinaires dans la plaine russe où on va exhumer ces fameuses statuettes, on va exhumer ces fameuses cabanes faites avec des ossements de mammouth, etc. Et à travers les théories de Engels, ces théories évolutionnistes des sociétés, un autre théoricien qui s'appelle Nikolai Marr, qui est très important dans la pensée russe du premier XXe siècle, dicter donc une théorie que l'archéologie préhistorique doit confirmer, cette théorie de l'évolution économique, d'évolution des stades de production et de l'évolution des formes de la famille.
Anne Guillou, vous êtes avec nous et vous nous écoutez. Vous êtes spécialiste sociologue de la Bretagne et vous avez travaillé pour un livre il y a quelques années qui s'appelait « Pour en finir avec le matriarcat breton ». Puisque nous avons pas mal de bretons dans l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, on a évoqué, quand on a évoqué cette question du matriarcat, est venue justement cette idée, ben voilà, il y a une société matriarcale, c'est celle de Bretagne. Et en vous lisant, on s'aperçoit qu'effectivement, au moment d'une sorte de renaissance bretonne, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, d'une renaissance aussi de l'idée celte, eh bien, on a fait renaître cette idée qu'il y avait une particularité à ces sociétés bretonnes, c'était justement des sociétés matriarcales où les femmes jouaient un rôle différent. Je citerai par exemple, pris dans votre ouvrage, le texte de Camille Vallot sur la Basse-Bretagne qui date de 1906, où il dit « Il y a des raisons pour que la femme ait en Basse-Bretagne une importance supérieure à celle qu'elle a d'ordinaire dans le ménage paysan. » Anne Guillou, comment en finir justement avec cette idée du matriarcat breton ?
Oui, j'ai été plutôt contrariée de voir le succès de cette notion, à la fois dans la vie courante, un terme utilisé par les journalistes, et puis surtout faisant mes enquêtes dans le monde rural en transformation des années 70-80, j'ai rencontré quantité d'hommes et de femmes et j'ai entendu les hommes clore presque tous les débats sur la condition féminine par ceci. Oh, vous savez, nous, en Bretagne, nous avons le matriarcat. Ça voulait dire, on clôt toute discussion. Ici, les femmes sont puissantes. Ici, il faut compter sur les femmes. Il faut compter avec les femmes. Elles ont un grand pouvoir. J'ai voulu, bien sûr, éclaircir cette question, ce qui m'a fait remonter au texte extrêmement contestable peut-être, mais intéressant, de Jean Marcade,
bien
la
sûr.
Femme celte, etc.
Oui, la femme celte était privilégiée par rapport à la femme germanique ou méditerranéenne, écrivait Jean Marcade, dont on sait effectivement qu'il a été énormément débattu à Nguyễn, et donc on a inventé là aussi un régime particulier des femmes avant la christianisation, des femmes bretonnes, de ce qui aurait pu apparaître comme la Bretagne de l'époque, avec une figure tutélaire, celle de la fille de Gradelon, donc le roi X, Dahud, et qui a une place particulière dans une sorte de mythologie bretonne, c'est cela Nguyễn?
Oui, c'est une question que là, je n'ai pas vraiment creusée, mais bien sûr, cette figure est importante. Et je me dis même, une confusion est entrée vraiment dans la mentalité contemporaine. On est resté maintenant sur cette représentation tout à fait idéale d'une société où les mères sont puissantes. Et il y a bien sûr quantité de témoignages, mais des témoignages très personnels et qui oublient que la mère n'est plus, et c'est pourquoi ça me semble tout à fait anachronique, la mère n'est plus cette femme du monde domestique comme elle était auparavant. Tout le livre consiste à dire tout ça est bien imprudent de parler de matriarcat et même peut-être d'une certaine mesure un peu dangereux. J'ai lu sous la plume d'une journaliste un jour, parlant donc, c'était dans Le Monde, pourquoi finalement la Bretagne n'a pas été un terrain très favorable pour la réflexion, la lutte féministe. C'est qu'au fond, en Bretagne, la femme bretonne ne s'est jamais sentie opprimée, aliénée, dominée. On est arrivé à des affirmations très lourdes qui, bien sûr, demandent réflexion.
En tous les cas, cette idée-là, Anne Guillou, semble cheminer comme ça historiquement, donc avec cette question de l'héritage celte. Après, vous parlez du cartulaire de Redon, qui est rédigé au IXe siècle, et qui pourrait donc, on peut découvrir que la nature des droits accordés aux femmes serait plus important, aux femmes nobles, serait plus important que au reste aux droits romains, en tous les cas. Mais évidemment, vous modérez ça en disant, mais bon, finalement, voilà, c'est qu'il y a une catégorie très très minoritaire de femmes. Enfin, à quoi s'accroche finalement cette idée erronée de l'existence d'un matriarcat breton à cette histoire
Les personnes qui s'attachent à cette notion, qui l'expriment, n'ont pas forcément une connaissance historique, n'ont pas forcément travaillé les textes anciens, et la perte progressive de droits dont jouissait la femme du Moyen-Âge, la femme bretonne du Moyen-Âge. Mais je crois que ce qui plaît, c'est finalement de dire il y a dans cette Bretagne, j'ai moi-même écrit des articles Bretagne, terre de mer, il y a eu tout de même, probablement, du fait de l'importance de la religion, du clergé abondant, puissant, il y a eu quelque chose comme l'exaltation de la mère, la mise sur piédestal de la mère. La mère, l'associée privilégiée du prêtre dans l'éducation des enfants, etc. Et cette sorte de vénération, entre guillemets, des femmes mères, eh bien, a sans doute imprégné, je veux dire, la mentalité en Bretagne, la mère, personnage important. Ce n'est pas la femme elle-même. On pourrait même dire femme dominée, mais mère dominante. Je pense qu'il y a certainement l'influence de l'Église. Or, ce qui est surprenant, c'est que le clergé breton comme le clergé en général, était finalement très favorable au patriarcat, au chef de famille, à la transmission de la propriété par les hommes, etc. Et en même temps, il y avait cette vénération, du moins proclamée, des mères.
Et justement, alors, Philippe Borgeot, la question justement de la chez Bachofen, de la religion et de la déesse-mère, de cette image, ça rejoint un petit peu peut-être ce mythe breton de la mère.
Je dirais il y a deux choses ici. Effectivement, alors si on rapporte ce qui vient d'être dit, qui d'ailleurs est passionnant, à Barrophone, on voit naître la théorie du droit de la mer chez Barrophone à partir de la lecture d'un archéologue qui s'appelle Gerhardt, qui a écrit un texte, c'est un ami de Barrophone, qui a écrit un texte sur la mère des dieux, donc une déesse qui arrive à Athènes au 5e siècle. Et c'est à partir de la lecture de cet article-là que Barrophone lit d'ailleurs de manière un peu bizarre, il comprend pas, enfin il comprend très bien, mais il veut pas comprendre exactement ce que dit Gerhardt. Il métamorphose les données de Gerhardt pour les transformer en l'idée qu'il y a à l'origine de toutes les figures féminines de la mythologie et de la religion, enfin dans ce polythéisme grec, il y a une grande figure qui est celle de la mère des dieux. Et que toutes les autres déesses ne sont jamais que des métamorphoses de celle-ci. Donc il y a cette idée de la grande déesse. Cette idée-là, elle va traverser évidemment tout le XXe siècle. Après,
oui.
elle va atterrir chez Jung partout, quoi. Elle devient obsessionnelle. Alors ça, c'est la première chose. Puis la seconde chose, peut-être qu'il faudrait dire, mais c'est tellement simple, c'est que comme c'est un juriste, qu'il est sensible au droit, donc au droit de succession, mais surtout de la filiation. Et il constate que, tout simplement, c'est dans dans le droit romain, ça, la mère n'a jamais, la mère est sûre, mais elle perd jamais. Ouais. Donc il ajoute cette notion formidable chez lui de la nécessité de mettre le fils à l'abri de tout soupçon. Et pour mettre le fils à l'abri de tout soupçon, il faut en quelque sorte le séparer de la mère par adoption testamentaire. Voilà. Alors, et pour lui, la figure majeure de toute l'histoire occidentale, c'est Auguste, qui est adopté de manière testamentaire par César.
Ah oui.
Et pour lui, c'est la victoire d'Apollon sur Dionysos. C'est la victoire de la lumière de l'esprit sur les ténèbres de la matière. Et donc, si vous mettez ça ensemble, c'est-à-dire c'est un système complètement bizarre, hein, mais complètement fantasmatique, mais si vous mettez ensemble cette affaire de grande déesse et puis cette peur du garçon qui ne sait pas d'où il sort, quoi, mais qu'il faut absolument faire sortir de son père, en fait, vous avez Barrophone. Je me demande si en Bretagne, ça serait intéressant de regarder comment s'est vécu cette affaire de filiation.
Sur ce point, brièvement, Anne Guyou, sur cette question de filiation.
Alors, cela m'a fait réfléchir, oui. Le rapport de la mère et du fils, c'est une relation très particulière et je dirais même paradoxale. On aurait pu penser, s'il y a vraiment des relents ou des héritages de matriarcat en Bretagne, on aurait pu penser une alliance, une complicité des mères, des filles, etc. C'est tout le contraire. Les mères bretonnes ont favorisé le fils, bien sûr, mmh. Et le fils rendant à sa mère ce qu'elle lui a donné. On a cette figure dans Perche de Caecilia, la dévotion qu'il a à sa mère, mais aussi tous ceux qui ont écrit, les jeunes gens qui sont devenus des prêtres, qui honorent leur mère mmh. comme étant vraiment à la base de leur vocation.
À l'image de Marie aussi.
L'image de Marie, bien sûr. Et cette image privilégiée en Bretagne, la pietà, la mère admirable, la mère d'exception, c'est celle qui finalement présente son œuvre, le fils, et le fils mort d'ailleurs. Mmh. Mais pour en revenir à la question du fils, je n'ai pas très bien étudié cela, j'ai seulement constaté d'un point de vue sociologique, on privilégie le fils, mmh. bien sûr, et comme j'ai surtout abordé les femmes rurales, mmh. l'héritage passe des parents au fils. Les filles sont priées d'aller voir ailleurs, et mmh. d'ailleurs, cela leur a donné l'occasion de faire des études et de chercher d'autres lieux d'insertion.
Claudine Cohen, alors, on a bien raconté comment s'installait cette idée du matriarcat entre, mettons, 1730 et le milieu du XXe siècle. Comment cela se défait-il au bout du compte? Parce que tout compte fait, il y a bien un moment où, après cette progression continue, avec les anthropologues, avec les archéologues, avec les théoriciens des mythes, eh bien, on va siffler la fin de la partie. Quand est-ce qu'on
siffle? Je crois que là, il ne faut pas aller trop vite. Je crois que la fin de la partie, elle est assez tardive. Et en fait, on a beaucoup parlé d'archéologie tout à l'heure. Et il me semble que l'archéologie préhistorique a joué un grand rôle dans la persistance de ce mythe matriarcal ou de cette idée matriarcale. Je parlais tout à l'heure de la Russie. On a trouvé en Russie des statuettes, soit en ivoire, soit en pierre calcaire, magnifiques, admirables, sur ces fameux sites de la vallée du Don. Il y en a plusieurs, et aussi en Sibérie, qui ont donc cautionné cette théorie, puisqu'on avait la théorie et on avait les preuves archéologiques en quelque sorte, que ces femmes, d'ailleurs dont on trouve aussi des exemplaires dans l'archéologie préhistorique d'Europe occidentale, hein, ces énormes femmes comme la Vénus de Willendorf avec des seins énormes, un ventre et des fesses absolument marquées alors que le reste est pratiquement pas présent. Et donc cette espèce de mère de figure où tout ce qui correspond à la génération est tellement accentué, eh bien, on les a interprétés dans l'archéologie préhistorique russe et plus tard aussi dans certaines théorisations américaines comme des figures qui incarnent ces formes matriarcales de ces sociétés primitives. Et alors, il faut vraiment citer le nom d'une femme qui a elle-même été une sorte de grande déesse de l'archéologie préhistorique pendant une grande partie de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est mariée à Jim Butas, qui d'ailleurs vient de Russie, enfin qui vient de Biélorussie et qui a émigré aux États-Unis, qui est allée en Californie, juste au moment où les féministes américaines bouillonnaient de revendications, enfin dans ces années 60-70, et mariée à Jim Butas a théorisé pendant toute sa vie, enfin toute sa vie américaine en tout cas, cette idée de la grande déesse, cette idée des formes matriarcales à l'origine des sociétés humaines, jusque très tard, jusque vers la fin du néolithique.
Et cette Maria Glimbutas, elle explique comment justement qu'il y a eu la fin. Alors la fin,
c'est un grand désastre hein, parce qu'elle valorise ces sociétés dont elle dit qu'elles sont douces, qu'elles sont vraiment civilisées, que tout y est parfait. Et puis arrivent alors des hommes venus sur leurs chevaux avec des armes de mort, hein, des civilisations
venues de l'Est.
De l'Est, voilà. Hein, et bon, et certainement des choses à interroger là-dessus. Sur pourquoi ils viennent de l'Est, qui vont détruire donc ce qu'elle appelle ce stade gilanique, hein, cette gynécocratie, et qui vont imposer ce patriarcat dans lequel nous vivons toujours, et cette défaite des femmes, en quelque sorte.
Mais qu'est-ce qui plaît tant pour qu'au bout du compte, ça fonctionne auprès de personnalités aussi diverses, dans des cénacles universitaires et de recherche aussi différents, au bout du compte, Claudine Cohen, qu'est-ce qui plaît tant dans cette idée-là? Il y a cette idée que on peut retrouver ce stade-là, c'est ce que disait tout à l'heure Séverine Yatar, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas un moment où, au-delà de la patrilinéarité, on puisse se passer à cette matrilinéarité ou à ces sociétés matriarcales. Et puis, il y a aussi cette idée d'une sorte de brouillard lointain dans lequel, duquel surnageraient des figures de mères, de déesses, etc., etc.
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme le rêve, hein, si on cherche à psychanalyser, je ne sais pas si c'est l'objet ici, mais effectivement, on parlait de Jung tout à l'heure, hein, il y a cette espèce de grand archétype dont d'ailleurs se réclame Jim Butas, hein, de la figure maternelle qui est au fond très profond en chacun de nous, hein, l'idée de la mère. Mais il faut bien voir que quand même, dans tout ce dont nous avons parlé, les choses sont modalisées différemment. Mmh. Hein. Parler de ces évolutionnistes du 19e siècle et la manière dont ils conçoivent ces sociétés donc matriarcales et parler de Jim Butas, c'est vraiment deux continents différents. Même si on parle de la même chose, hein, de la préhistoire, si on parle aussi de ces statuettes, etc. Mais c'est modalisé d'une façon totalement différente. Et Jim Butas, elle, valorise ce stade ancien des des sociétés humaines, ce stade vraiment harmonieux, civilisé, comme les femmes savent l'être. Hein. Alors, toutes les féministes n'ont pas, évidemment, adhéré à cette vision-là. Et si vous lisez Simone de Beauvoir, si vous lisez les deux premiers chapitres de son grand livre sur le deuxième sexe, eh bien, elle fait, bon, une préhistoire de l'humanité qui est assez sommaire, parce qu'elle n'était pas préhistorienne, elle a lu quelques bouquins, mais en tout cas, elle refuse absolument l'idée de légitimer la lutte des femmes par un stade soi-disant matriarcal qui aurait préexisté au stade patriarcal. Pour elle, la femme a toujours été aliénée, toujours été dominée, et c'est par la lutte qu'il faut qu'elle se sorte de cette domination.
Parce que finalement, ce qui s'est perdu, c'est un moyen aussi de cautionner la domination masculine et patriarcale. Il y a cette idée-là chez certaines féministes, justement, de dire, bah, voyez, enfin, ce que renvoient certains aux féministes, c'est, bah, voyez, le pouvoir matriarcal a existé, voilà.
Alors oui, alors la critique. Alors les féministes ont fait leur autocritique hein, à la fin des années 80-90, après tous ces débordements de revendications qui s'appuyaient un peu sur cette mythologie et sur toutes les preuves qu'on pouvait trouver de la force des femmes et du pouvoir des femmes. Puis ensuite, on s'est mis à réfléchir un petit peu plus et à se dire que peut-être que reléguer le pouvoir des femmes dans cette préhistoire rêvée, c'est peut-être une façon, et ça l'est effectivement dans certaines traditions mythologiques que les ethnologues ont pu rapporter, une façon de dire, eh bien, elles ont eu le pouvoir, elles n'ont pas su le gérer, et heureusement que les hommes sont arrivés après. Et c'est donc reléguer ce pouvoir des femmes dans un passé qui n'est plus, et il n'y a aucune raison que ce passé revienne.
Il y en a un autre qui siffle la fin de la partie en Union soviétique. Il s'appelle Staline. Joseph Staline.
Ah bah oui,
Staline. C'est quand même étonnant que ça soit Staline qui contredise l'héritage d'Engels, en l'occurrence, et donc passé par Lénine, avec la nomination de Nicolas Himard comme dirigeant de l'Institut d'Histoire des Cultures Matérielles de Saint-Pétersbourg, ce penseur justement de ces stades historiques de l'évolution de l'humanité. Et que ça soit Staline en 1950 qui écrive lui-même dans la Pravda, parce qu'il était évidemment en même temps un grand penseur, qu'il écrive dans la Pravda qu'il faut siffler la fin de la partie.
Absolument. Et il arrête complètement. Et d'ailleurs, c'est sur des questions de linguistique. Parce que
Marx était linguiste aussi, Staline.
Marx était linguiste.
Oui, Marx était linguiste.
Et donc, c'est assez compliqué. Il y avait une théorie du langage qui était inscrite dans son histoire des stades sociaux. Et donc, dans la Pravda, Staline écrit un article sur cette théorie du langage qui, à ses yeux, est complètement périmée et qu'il faut dépasser. Alors, il y a d'autres enjeux politiques, évidemment, derrière. Mais en tout cas, à partir de là, on a arrêté de faire du marisme et on a arrêté, donc, de cultiver cette idée des stades primitifs qu'on avait jusque-là, qui a d'ailleurs produit de très belles choses dans l'archéologie soviétique. Il y a eu des fouilles extraordinaires qui ont été faites, parce qu'en cherchant des stades, on s'est mis à innover, par exemple, au niveau des fouilles. On s'est mis à fouiller horizontalement pour retrouver précisément ces stades. Et ces techniques de fouilles ont été reprises, sans la coloration marxiste, évidemment, dans l'archéologie préhistorique française.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure des anthropologues évolutionnistes. Vous nous disiez combien quelqu'un comme Lévi-Strauss devait à Lewis Morgan, qui était de ces anthropologues évolutionnistes, qu'il y avait peut-être des restes, d'ailleurs, dans la théorie de l'échange des femmes, par exemple, dans la question de l'anthropologie de Lévi-Strauss, qu'il avait peut-être des restes de cette vision ancienne, pourrait-on dire, de
l'anthropologie. Il l'a repensé.
Il l'a repensé.
Très fortement.
Voilà. Mais comment en arrive-t-on à ce que, par exemple, une anthropologue comme Françoise Héritier dise, il n'y a pas d'exemple de société matriarcale et ces sociétés sont mythiques. C'est-à-dire de mettre un point final, pourrait-on dire, à cette histoire que nous racontons depuis le début de l'émission aujourd'hui.
Absolument. Bon, il faut bien voir que Lévi-Strauss a repris certains éléments, mais il s'est inscrit totalement contre toute idée évolutionniste. Pour Lévi-Strauss, on a une diversité des cultures, on a des structures de parenté qui peuvent être très complexes dans des sociétés très anciennes ou dans des sociétés très éloignées, très simples à nos yeux, mais qui sont très complexes dans leur structure. Il a repris Morgan parce que Morgan avait théorisé la parenté et c'est un des premiers, c'est un des pionniers de cette théorisation. Il a repris effectivement cette notion d'exogamie, d'échange des femmes, etc., qui avaient été théorisées. Tout n'était pas jeté dans cette anthropologie évolutionniste, mais le concept même d'une évolution sociale, évidemment, Lévi-Strauss l'a refusé. Alors, quant à Françoise Héritier, bon, c'est une disciple de Lévi-Strauss, mais elle a ajouté à la pensée de Lévi-Strauss, donc cette pensée de la parenté, cette pensée donc des structures très diverses que Lévi-Strauss avait, sur lesquelles Lévi-Strauss a voulu insister, elle a ajouté un concept, à savoir le rapport du masculin et du féminin qui se trouve présent, enfin modalisé dans toutes les sociétés et qui se trouve être une hiérarchie et une domination des femmes par les hommes. Alors là, bon, c'est aussi à travers une lecture de Margaret Mead, des anthropologues américaines, qu'elle est arrivée sans doute à ce genre de position. Mais effectivement, elle ajoute quelque chose à Lévi-Strauss et elle pense que cette dualité, dans toutes les sociétés, elle se présente comme une hiérarchie, sauf peut-être aujourd'hui où précisément nous avons, avec la possibilité pour les femmes de contrôler leur fécondité, des éléments pour précisément
conquérir des droits nouveaux.
Commencer à conquérir des droits nouveaux.
Merci beaucoup Claudine Cohen d'avoir résumé aussi brillamment et brièvement cette évolution avec également Philippe Borgeau, que nous remercions grandement, ainsi que les studios de la RTS qui l'ont accueilli à Genève. Il est professeur à Genève et il est l'auteur avec Nicole Duriche, Angé Colde et Grégoire Sommer chez Drose dans la collection Recherches et rencontres de la mythologie du matriarcat, l'atelier de Johann Jakob Barhoffen. Merci à vous, Anne Guillou, d'avoir été avec nous pour évoquer ce matriarcat breton. Vous avez travaillé sur ce sujet dans la collection de Skolbraise, Les Bretons et les femmes, avec un livre qui s'intitule, le titre est clair, Pour en finir avec le matriarcat breton. Et quant à vous, Claudine Cohen, on peut citer évidemment La femme des origines, c'était chez Belin il y a quelques années, Images de la femme dans la préhistoire occidentale. Aujourd'hui sort un livre, vous y avez travaillé avec d'autres, ainsi que Sylvestre Huet, qui s'intitule L'origine de l'humanité, les nouveaux scénarios chez La Ville Brûle, et également dans quelques temps chez Belin, Les femmes de la préhistoire. Merci à toutes et merci à tous.
Merci.
Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Jacques Hézubert était avec nous à la technique ce matin et Véronique Samouilov à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter l'ensemble des émissions que nous avons consacrées aux relations entre mères et filles depuis le début de la semaine, n'hésitez pas à venir sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter les émissions aussi longtemps que vous le souhaitez, les télécharger dans l'année qui suit leur diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages, il y a des commentaires, et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC. Fabrique FC, c'est notre adresse Twitter.